Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'invité de la Tribune de l'Art avec aujourd'hui quelqu'un que nous avions reçu il y a 10 ans exactement. Le temps passe vite, je vieillis, elle ne vieillit pas. C'est Olivia Voisin, la directrice aujourd'hui du musée d'Orléans depuis déjà plusieurs années, qui était à l'époque venue comme conservatrice au musée de Picardie à Amiens. Bonjour Olivia.
Bonjour Didier.
Alors je pense que le son va être bien meilleur. J'ai réécouté l'émission d'il y a 10 ans et je dois dire que le son était terrible parce qu'il y avait beaucoup de bruit parasite. C'était un peu la radio libre, la radio où on commençait. Et aujourd'hui, le système est bien meilleur. Donc ça devrait bien se passer. vous étiez donc, quand vous êtes venu dans cette émission, conservateur au musée d'Amiens, musée de Picardie. Depuis, vous avez fait beaucoup de chemin puisque vous êtes devenu, je ne sais plus quelle année.
En décembre 2015.
En 2015, donc il y a 5 ans.
8 ans.
8 ans, bien sûr, 8 ans, excusez-moi, je calcule mal, même presque 9 ans. Vous êtes devenue directrice du musée d'Orléans. Alors, on va peut-être revenir sur ce qui s'est passé avant même Amiens, puisqu'on ne l'avait pas fait lors de la précédente émission. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivée à l'histoire de l'art ?
Un peu par hasard, un jour, en me baladant de mémoire à Montpellier, j'avais vu une affiche pour une exposition Miro qui m'a donné envie de rentrer dans le musée. Et je suis allée visiter l'exposition. D'ailleurs, c'était peut-être une galerie. J'ai jamais vraiment retrouvé cette exposition. Et elle a été un déclencheur. À partir de là, je me suis inscrite en histoire de l'art au lycée. J'ai passé un bac histoire de l'art avec la conviction de vouloir être conservatrice.
Et qu'est-ce que vous avez fait après le lycée, après le bac ?
Alors, de manière très classique, j'ai fait une maîtrise d'histoire de l'art à l'université de Pau. Énormément de stages pendant cette période. Tous les 6 mois, j'étais en stage quelque part. Je savais que je voulais travailler dans les musées, travailler sur les collections. Puis j'ai fait une année de muséologie et puis ensuite un DEA à Dublin avant de commencer une thèse que je n'ai pas complètement terminée, enfin même pas du tout, puisque j'ai commencé à travailler à la Comédie Française. J'ai eu plein de postes et pendant 4 ans, j'ai travaillé sur les collections de peinture et sculpture, toute la collection Beaux-Arts très peu connue. Et j'ai eu le concours au bout de ces 4 années, donc j'ai arrêté pour prendre le poste à Amiens.
Dites-nous un mot de cette collection de Beaux-Arts. On en a vu une partie au Petit Palais il y a quelques années.
Tout à fait.
C'est un vrai musée, en fait.
C'est un vrai musée. En fait, c'est une collection très attachante, puisqu'elle a commencé à la fin du XVIIIe siècle avec la volonté de garder une mémoire, de pérenniser l'art le plus éphémère qui soit, qui est le théâtre. Et l'esprit maison de la comédie, qui, avec un répertoire, avec des comédiens qui ne sont pas juste des interprètes, qui sont vraiment des figures structurantes de l'histoire du théâtre, eh bien, devait trouver un moyen de se matérialiser. Et c'est comme cela qu'une collection de peintures a commencé à être constituée. De portraits historiques, mais également de portraits commandés du vivant des comédiens pour en garder le souvenir, et notamment garder le souvenir de la manière de jouer, de toute la dramaturgie. Et la scène a été le lieu qui a catalysé toutes les recherches esthétiques de la période, qui est devenu un modèle pour les peintres. Donc ça, c'était mon sujet de thèse, c'est comme ça que je suis arrivée à la comédie. Et donc, une vraie collection a été constituée à travers les décennies, les siècles. Collection des comédiens français, ce qui, en termes de législation, pose parfois un peu problème, puisque la frontière entre le privé et le public est permanente à la Comédie Française. Aujourd'hui, c'est une collection de plus de 400 tableaux, plus les sculptures, qui n'est pas réellement montrée au public, puisque cette collection est déployée dans les bureaux.
Mais elle est privée, donc c'est-à-dire qu'elle pourrait être vendue, c'est pas un musée de France.
Alors, les collections ne sont pas musées de France intégralement. Elles ne sont pas musées de France tout court, puisqu'il n'y a pas de musée de la Comédie Française. En revanche, toutes les œuvres qui sont acquises depuis maintenant la loi de 2002 appartiennent complètement aux collections publiques, puisqu'elles sont achetées avec une participation de l'État.
Alors, quand je vous ai rencontré pour la première fois, c'était au musée de Montpellier, je crois, au
tout
musée Fabre. Et vous faisiez un stage là-bas ?
C'était mon stage de conservateur. Voilà. À la suite de ces 6 mois au musée de Montpellier, où j'avais commencé à travailler sur le catalogue Bruyas, qui va avoir le jour sous la houlette de Pierre Stepanov, qui a été conservateur par la suite là-bas, qui a mené ce grand projet. Donc le livre va sortir d'ici peu. Et à la suite de ce stage, on avait fait un autre à Afrique Collection. Et j'avais pris un poste tout de suite en sortant de l'INP au musée de Picardie, où j'étais responsable du département Beaux-Arts. À un moment crucial, puisque le musée était partiellement fermé, il fallait penser la rénovation et notamment penser le futur accrochage. C'est là que j'ai découvert cette histoire absolument merveilleuse, ce musée qui avait perdu son identité, qui avait été ouvert en 1863 avec l'idée d'en faire une succursale du musée du Luxembourg, avec toute la peinture que nous aimons, ces grands formats du 19e siècle qui étaient encore roulés.
Alors des formats, nous en parlerons, que vous avez retrouvés du 19e siècle que vous avez retrouvé au musée d'Orléans, mais nous allons en parler tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous dire, moi je dois dire hein, que quand on se connaissait un petit peu, mais pas beaucoup, quand vous êtes arrivé donc il y a 8 ans au musée d'Orléans, le musée d'Orléans était dans un état assez déplorable. Les collections étaient en grande partie en réserve, on voyait très peu de choses sur les murs. Il y avait très peu d'expositions. Il y avait une grande exposition qui était celle sur le château de Richelieu, mais à part cela, pas grand-chose. Très peu d'acquisitions. J'avais presque l'impression d'un musée en train de mourir. Et c'est vrai que depuis que vous êtes arrivé, alors, on parle beaucoup du musée d'Orléans. Vous dites toujours qu'on ne parle pas assez de vos acquisitions parce que vous en faites tellement. Je ne vous ai pas dit trop, évidemment. Vous en faites tellement. C'est formidable. On en reparlera bien sûr tout à l'heure. C'est des fois difficile de vous suivre parce qu'il y a d'autres musées qui aussi achètent de temps en temps. Mais vous, vous achetez beaucoup et ça, nous reviendrons là-dessus. C'est un musée que vous avez complètement dynamisé. Je ne crains pas de le dire puisque c'est vraiment, on a, je pense, la même conception du musée. C'est-à-dire un musée, c'est quelque chose, c'est un endroit où on montre les œuvres et vous les montrez, vous les sortez des réserves. Expliquez-nous un peu l'état du musée dans lequel vous l'avez trouvé. Et ensuite, qu'est-ce que vous y avez fait? Et vous avez toujours été soutenu, je vais le dire, par les maires successifs. Je dois dire, et là, je rends hommage parce que il fut un temps lointain où j'étais un peu critique avec le maire actuel qui, là, soutient le musée de très belle manière. Et je dois lui rendre hommage. Et je veux dire que Orléans est un musée et une mairie, exemplaire pour sa gestion du musée.
Alors c'est vrai que vous soulignez un point essentiel. Quand on travaille en territorial, on fait partie d'un projet beaucoup plus global de territoire. Et on a l'impression, nous, que le musée constitue la totalité d'une politique. En réalité, c'est un tout petit élément de toute une politique beaucoup plus large. Et il faut trouver le moyen de rendre sa place au musée pour les usagers, mais pour le rayonnement de la ville. Et c'est cet axe-là, évidemment, que j'ai pris en arrivant à Orléans. D'ailleurs, ce qui m'intéressait... Pour être honnête, j'occupais le poste de mes rêves à Amiens. J'avais absolument tout ce que je pouvais espérer en termes de collection, une collection à la fois ancienne et 19e merveilleuse, un projet avec un très gros financement. Mais un jour, la directrice de la culture d'Orléans m'a appelée. Personne ne voulait candidater pour cette direction des musées d'Orléans. Le musée avait en effet perdu tout son dynamisme, les collections étaient en réserve, enfin, c'était un musée qui avait disparu de la carte. Néanmoins, les collections sont les collections, elles restent. Les années passent, les décennies et siècles passent, mais les collections sont toujours là.
Même nous passons, mais les collections restent.
Exactement. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure. Et l'objectif était en effet de pouvoir rendre au public ces collections. Je crois que c'est le point de départ en réalité. Ces collections sont publiques, elles ne nous appartiennent pas. Notre devoir est de pouvoir les mettre à disposition et les rendre intelligibles. Donc à partir de là, j'ai proposé au maire qu'à budget constant, on invente une manière de refaire un musée. Refaire un musée, ce n'est pas forcément des millions et des millions. Alors pour l'enveloppe, oui. D'ailleurs, nous y arrivons enfin au bout de 8 ans au musée d'Orléans. Le musée sera refait dans son enveloppe.
Nous en parlerons.
Mais tout le parcours a été refait à budget constant, fermant étage après étage pour ne jamais totalement fermer le musée, mais pour rendre les collections au public. Donc avec un parcours chronologique, intelligible, une politique d'accompagnement du visiteur par le biais de cartels, dans cette grande période que nous vivons, qui divise à travers le cartel, pour et contre les cartels, nous sommes radicalement pour. Le cartel au musée d'Orléans est posé au sol, est très long et permet à chaque visiteur, qu'il connaisse ou pas les artistes, qu'il connaisse ou pas les périodes, de pouvoir se retrouver, comprendre à la fois l'œuvre qu'il a sous les yeux, la période dans laquelle il s'inscrit. Et on a des retours tellement excellents que je crois vraiment que c'est là l'avenir des musées, il faut pouvoir accompagner les visiteurs.
Alors vous les posez au sol, mais d'abord c'est en grosses lettres, donc tout le monde peut voir. Et ça permet aussi à ceux qui ne voudraient pas voir les cartels de ne pas les voir puisqu'ils sont au sol et ils peuvent regarder les tableaux sans cartel juste à côté. Donc c'est finalement, tout le monde est content.
Absolument, il faut que le musée soit polysémique, puisse répondre à différentes attentes. Certains vont vouloir simplement se balader. Et il faut avouer que le cartel est toujours un écueil pour l'œil quand on regarde des œuvres, d'avoir ce cartel, ce rythme, tableau, cartel. Quelque chose d'extrêmement lassant. Donc l'avoir au sol règle ce problème. On peut avoir une balade beaucoup plus fluide dans la beauté, dans la réflexion. Chacun y trouvera ce qu'il cherche. Mais on peut aussi vouloir apprendre. Et dès qu'une œuvre nous saute aux yeux, nous intrigue, eh bien on a toutes les réponses dans le cartel. Donc c'est un très gros travail, très long, puisqu'un cartel fait à peu près 1800 signes. Il faut les rédiger. Et on n'utilise pas ChatGPT au musée d'Orléans.
On espère.
mais aujourd'hui, 1300 œuvres sont à disposition du public. On en avait 400 quand je suis arrivée en 2015. Et surtout, toute la scénographie a été refaite, toute la muséo. Et au-delà de salles beaucoup plus généreuses, il y a cette idée de générosité qui est vraiment très, très importante pour nous. On a évidemment profité de l'occasion pour refaire tout l'éclairage. On est passé en LED. Donc, on fait partie des premiers musées, finalement, à être... beaucoup plus écologique dans notre manière de voir les choses.
Alors, je fais partie de ceux qui, comme vous, aiment les accrochages serrés. Ce qui ne veut pas dire forcément Palazzo Pitti, parce que Palazzo Pitti, il y en a vraiment, c'est trop haut.
Oui.
C'est peut-être un peu compliqué, mais il y en a d'autres qui préfèrent un mur, un tableau. Je ne supporte pas cela, je crois que vous non plus.
Moi non plus. Aussi pour cette raison que les collections sont là pour être vues. Donc si on laisse un mur vide, ce sont autant d'œuvres en réserve. Et on ne peut pas choisir la place du public. Ça, j'en ai la conviction. On ne doit jamais faire les choix en fonction de nos propres goûts. Il faut savoir montrer des choses qui ne nous plaisent pas. Je me souviens d'un collègue qui, quand on a réouvert la salle des grands formats du 17e, m'a dit « Oh là là, si j'avais été en poste ici, c'est tout ce que j'aurais laissé en réserve. » Bon, je crois que c'était ironique, mais malgré tout, ce type d'approche montre qu'on peut assez facilement être guidé par ce qu'on aime plutôt que par les collections elles-mêmes. Et notre devoir, une fois de plus, c'est de pouvoir... tout traiter, tout étudier, tout montrer aux visiteurs, et c'est aux visiteurs de faire son choix. Évidemment, notre rôle est de pouvoir organiser. On n'accroche pas façon Palazzo Pitti juste pour avoir de la densité et en montrer plus. Tout est organisé, tout est hiérarchisé, et charge à nous de trouver un accrochage agréable en dépit d'une forme de densité.
Alors vous avez donc, comme vous l'avez dit, refait étage après étage. Il reste encore le sous-sol, c'est-à-dire le XXe siècle, que vous avez commencé déjà un petit peu, puisqu'il y a des œuvres du début du XXe siècle post-impressionniste qui sont exposées. Quelle sera la suite donc Alors racontez peut-être le déroulé, pour ceux qui ne connaissent pas le musée, le déroulé, on commence en haut et on descend.
Alors le musée d'Orléans, d'abord, en préambule, fait partie des plus grands musées français en termes de volume et en termes de nombre d'œuvres. Alors, en termes de nombre d'œuvres montrées dans les parcours, on est juste après la piscine, qui de toute façon nous battra toujours, puisque la piscine a ce parti pris extraordinaire de pouvoir montrer les ateliers complets. Donc 1300 œuvres dans le parcours, c'est la promesse d'une journée bien chargée si on vient visiter le musée, voire d'une année bien remplie. Et c'est aussi notre but. On a sorti, petite parenthèse, un abonnement à 15 euros l'année, 25 euros pour les couples, pour justement inciter à ne pas venir manger du musée, mais pouvoir passer, flâner, venir suivre une visite, voir une expo. Et donc nous avons commencé par la fin du XVe siècle, avec même quelques œuvres un peu plus anciennes, et on déroule le deuxième étage, qui est le début du parcours, va jusqu'en 1660. On continue au premier étage, qui est le plus vaste, 1200 m², avec la fin du XVIIe siècle et tout le XVIIIe siècle, et notamment le célèbre cabinet de pastels du musée, puisque nous avons 250 pastels, un fond Peyronnet extraordinaire, mais pas que, et qui a toujours été vraiment le cœur de battant du musée, et donc un cabinet permanent et dédié aux pastels. C'est là aussi important pour nous de trouver une solution.
Que vous montrez, parce que la lumière s'éteint quand on sort.
Exactement, la lumière s'éteint, et puis aujourd'hui, avec les LED, les préoccupations ne sont pas du tout les mêmes. Hein. La lumière est beaucoup moins nocive pour les œuvres. Puis on peut utiliser des vermi-regards. Enfin, il y a plein de techniques pour pouvoir montrer des dessins en permanence. Et puis après, on passe jusqu'en 1815. Ensuite, on passe dans les salles du 19e siècle, dans les entresols. Donc là, autre cœur des collections qui n'était pas du tout montré, qui a été inauguré en 21, avec 1815-1870, et puis en effet le dernier plateau, le niveau -1, que nous avons commencé à redéployer, mais qui en réalité va être vraiment refait lors des grands travaux du musée, puisque c'est un étage qui sera profondément modifié, avec le désenfumage, tous ces aspects que le public ne voit pas, et donc c'est à ce moment-là qu'on verra totalement les espaces déployés, puis peut-être même quelques nouvelles salles à la faveur des travaux.
On arrivera à la fin, selon chronologie, on passera au futur du musée à la fin de l'émission. Je parlais tout à l'heure des acquisitions. Je ne sais pas combien vous avez fait d'acquisitions depuis que vous êtes arrivé, mais moi ce qui m'a frappé, c'est que vous n'étiez pas encore installé au musée, que déjà vous proposiez des acquisitions, c'était plusieurs œuvres du début du XVIIe siècle, si je ne m'abuse, pour le château de Richelieu, si je ne me trompe. qui n'était pas du tout. Vous disiez qu'il fallait aussi s'intéresser à ce qui n'était pas votre goût personnel. Et c'est exactement ce que vous avez fait, parce que a priori, vous n'êtes pas spécialiste du début du XVIIe siècle. Vous êtes spécialiste plutôt de ce que, du romantisme. Et là, dès votre arrivée, et même avant votre arrivée au musée, vous avez réussi à faire acheter des œuvres qui passaient dans le public.
Alors déjà, il faut suivre le marché, c'est essentiel. Pendant plusieurs années, j'ai fait le cours d'acquisition à l'INP, l'Institut National du Patrimoine, et j'expliquais à tous les jeunes conservateurs qu'il faut suivre le marché. Parce que,
ce qui n'est pas beaucoup le cas, hein, malheureusement. Moi, je constate qu'à Drouot, ouais, où je vais souvent, on voit très très peu de conservateurs.
Alors aujourd'hui, grâce à Internet, il n'y a pas besoin de se rendre à Drouot. Moi, depuis Orléans, je peux suivre comme mes collègues.
Je sais qu'il y a quand même peu de conservateurs qui suivent sur Internet les sites de vente aux enchères. C'est quand même pas la majorité. C'est un peu dommage.
C'est tout à fait dommage, surtout que suivre le marché ne veut pas forcément dire acheter tout ce qui passe. C'est connaître un peu l'ambiance du moment et puis tomber parfois sur des objets qu'on peut avoir à des prix ridiculement bas. Enfin, citons un tableau qu'on a...
Alors, le dernier tableau que vous avez acheté.
Le dernier que nous avons préempté il y a 2 semaines, un grand tableau d'Antignat.
Il y a un article sur la tribune de l'art, même si je n'ai pas encore parlé de toutes les acquisitions.
Mais là, vous avez traité la question en temps et en heure. Nous avons préempté ce grand tableau d'un mètre de long que nous connaissions par une photo de la documentation d'Alexandre Antignat pour 445 € marteau, 560 € avec les frais. Donc il ne faut pas nécessairement avoir un gros budget d'acquisition. Une société d'amis suffit pour les musées, pour les collègues qui n'ont pas de budget d'acquisition. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Orléans, il n'y avait pas de budget d'acquisition, il n'y avait pas de budget restauration non plus. Les liens entre le musée et la collectivité étaient assez distendus. Et c'est par les acquisitions, je crois qu'on a réécrit une histoire ensemble, avec la première année pour à peu près 690 000 euros d'acquisitions menées par le biais de mécénat, d'aide de l'État, de la Société des Amis, qui est très, très dynamique. Et donc, je crois vraiment que ces acquisitions jouent un rôle structurant dans la vie des collections. D'abord, l'arrivée d'une œuvre dans les collections, c'est comme l'arrivée d'un enfant dans une famille. Tout le monde est heureux, parce qu'évidemment, on n'achète pas n'importe quoi. On achète des œuvres qui ont leur place au musée. D'abord, les commissions acquisitions nous demandent de justifier. Donc, on n'achète pas non plus n'importe quoi. Et donc, pour fédérer les équipes, pour fédérer les visiteurs, pour fédérer les équipes politiques, eh bien, une acquisition est vraiment l'élément tout trouvé et qui crée de la joie. Et c'est vrai que qui crée aussi une dynamique dans les collections, puisque évidemment on n'achète pas pour ou on ne reçoit pas de dons pour mettre en réserve. Ça, c'est pas du tout une politique Orléans, on montre absolument tout. Et donc cette dynamique est sans cesse renouvelée par l'arrivée de nouvelles œuvres. Et d'ailleurs, dans un cercle vertueux, puisque les dons attirent les dons, et aujourd'hui on en reçoit énormément.
Alors, ce qu'il y a, c'est que les murs ne sont pas extensibles. Alors, on reviendra tout à l'heure à l'extension, c'est un petit peu possible, mais comment faites-vous pour acheter, et d'ailleurs vous ne m'avez pas dit à peu près combien d'œuvres vous avez acheté, ce qui veut pas dire grand chose, parce qu'il y a des dessins évidemment que vous achetez et que vous ne pouvez pas exposer, mais en tableau, sculpture, il y a beaucoup d'œuvres qui sont rentrées. Est-ce que vous avez une idée du rythme d'acquisition, qui est un des plus importants des musées français ?
Alors, vous savez, mon modèle est Eudox Marsil, qui est plus connu pour avoir été le propriétaire des fraises de Chardin, mais qui a surtout été le fils du grand collectionneur François Marsil et directeur du musée d'Orléans de 1870 à 1890. Il a hérité de ce musée, qui était un musée bien tenu, musée d'art ancien essentiellement. Il a ouvert à l'école moderne et il n'avait plus du tout d'argent puisque le musée était endetté face à des acquisitions d'estampes pendant une vingtaine d'années. Et en 20 ans, il a fait entrer 3000 dons. Et c'est notre modèle. On essaie de tenir ce rythme en hommage à Eudox Marsil. Peut-être y arrivera-t-on grâce au musée historique, mais non, ce serait très difficile de vous dire combien nous avons fait d'acquisitions et reçu de dons. En tout cas, ça se compte en centaines depuis 8 ans.
Alors, parmi les acquisitions dont nous n'avons pas parlé, je voudrais parler de celle, il y aura un article très bientôt, vous devez m'envoyer toutes les photos. C'est un don de plusieurs sculptures et dessins, je crois, romantiques, d'œuvres romantiques, faites par Jean-Loup Champion.
Alors Jean-Loup Champion, qui nous a en effet offert une sculpture et 10 tableaux. C'est un fonds très important et je crois que ce don est assez emblématique des liens que nous tissons avec les collectionneurs. Jean-Loup Champion m'avait prêté pour une exposition Louis Boulanger à la maison de Victor Hugo un tableau et a proposé de l'offrir au musée d'Orléans à la fin de l'exposition.
C'est lequel ?
C'est une scène qui reste très énigmatique puisque nous n'avons pas complètement le sujet, sans doute Cromwell. Et nous n'avions surtout pas de Louis Boulanger dans la collection d'Orléans, qui est pourtant très tournée dans ce goût de Eudox Marsil pour les artistes autour de Jeanne de Verrières. Et en le rencontrant, en voyant la politique du musée, il a souhaité augmenter son don. Et nous sommes arrivés à une sélection de 11 œuvres, dont un autoportrait de Marie d'Orléans, qui occupe aujourd'hui une place vraiment très importante dans le parcours. Par exemple, il n'y avait pas par le passé de salle consacrée aux Orléans. C'était important de pouvoir reconnecter les Orléans avec la ville d'Orléans, puisque les collections étaient tout à fait éloquentes sur la politique très dynamique de Louis-Philippe et de sa famille tout au cours du 19e siècle.
Alors, comme c'est difficile de parler de toutes ces acquisitions, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de comment vous achetez ? Quelle est votre politique d'acquisition ? Qu'est-ce que vous surveillez particulièrement ? Et comment ça se passe ?
Alors, nous sommes trois déjà à surveiller le marché au musée. Corentin Dury, qui est mon adjoint pour les collections anciennes, et Mehdi Korchan, qui est responsable du cabinet des arts graphiques. Et c'est vrai que nous avons tous les trois la même vision du musée et des acquisitions. Donc, nous suivons ardemment le marché. Ça va des ventes pour acheter un tableau à 400 euros jusqu'à Maastricht, évidemment, où nous nous rendons tous les ans.
Vous avez acheté d'ailleurs à Maastricht, je n'en ai pas encore parlé. Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce que ce n'est pas passé en commission encore ?
Je ne crois pas avoir acheté quoi que ce soit cette année à Maastricht, mais...
Je me trompe alors ?
J'aurais tout à fait aimé.
Oui, je me trompe, je confonds avec... vous avez peut-être des souhaits que vous n'avez peut-être pas pu concrétiser dans ce cas-là.
Ah, il y avait bien un Van Dyck qui aurait été parfait.
Ça n'est pas le cas Van Dyck. Bah, vous écoutez, oui, on ne prête qu'aux riches, donc je pensais que vous aviez acheté à Maastricht. En tout cas, vous achetez partout,
mais,
en fait.
Mais si quelqu'un a 4 millions d'euros pour ce Van Dyck, je crois que c'est exactement l'œuvre qui...
Voilà, un appel est fait aux mécènes potentiels qui écoutent l'émission.
Donc rien à Maastricht cette année, mais ça aurait pu, plus parce que un seul tableau nous aurait intéressé, était vendu tout de suite et était quand même à un prix très important, à Boutet de Montvel, Bernard Boutet de Montvel. Alors comment achète-t-on ? Finalement, je crois que ce sont aussi les objets qui nous trouvent. À un moment donné, un artiste qui aura des liens particuliers avec la collection, la ville ou la collection, une œuvre, je ne sais pas, par son thème, va nous sauter aux yeux. Alors d'abord, on étudie la possibilité, l'intérêt, on en parle tous ensemble. Parfois, il faut être très réactif. Quand on voit une vente qui aura lieu dans 2 jours, eh bien, il faut obtenir l'autorisation d'acheter. Si on a plus de temps de préempter, même en galerie, il faut pouvoir quand même réagir très très vite, hein, puisque il ne faut pas croire que parce que la galerie garde l'œuvre plus longtemps, on a le temps de réfléchir. Hein. Les autres acheteurs sont là, les collectionneurs sont là, et il y a une grande concurrence face à l'achat d'œuvres. Donc cette réactivité, on essaie d'en faire notre quotidien, tout en menant le reste. Évidemment, il ne faut pas croire qu'on ne mène que des acquisitions, mais c'est presque le moment joyeux en fait de nos journées, quand on a un dossier à mener, à porter, pour convaincre. Et comment choisit-on finalement ? Je vais vous faire une réponse de Gascon. Ce sont les œuvres qui nous choisissent, j'en suis convaincue.
Mais par exemple, une œuvre ancienne, le musée est un musée... qui a un Velázquez, qui a un Guido Reni, qui a des œuvres italiennes, espagnoles, etc. Mais évidemment, vous parliez d'un Van Dyck, bah, c'est vrai que vous auriez envie d'acheter un Van Dyck. Comment arrivez-vous à décider quelle œuvre ancienne vous voulez acheter ou vous allez pouvoir acheter et de vous lancer dans cet achat ?
Alors, pour les œuvres anciennes, le prix, hélas, choisit aussi pour nous. Donc, le Van Dyck aurait été parfait. Nous en avons un magnifique qui a été légué par Paul Fourchet. Néanmoins, un second aurait été vraiment divin. Mais le prix de 4 millions d'euros a choisi pour nous. Alors, même si on peut toujours trouver des mécènes, il faut aussi voir l'énergie à débloquer pour une acquisition. Et peut-être que ce Van Dyck était moins essentiel que d'autres pour lesquels on va déployer une plus grande énergie. Pour les œuvres anciennes, j'aimerais vous dire que le prochain Velázquez qui passera sera pour nous, mais c'est vrai
pour
que...
le Louvre, mais c'est même pas sûr.
Peut-être pour le Louvre, en effet. Nous resterons sinon les deux musées à avoir des Velázquez. Il y a quelques années, un collectionneur est venu à Orléans, a vu la collection et a trouvé qu'il manquait un Ribera pour accompagner le Velázquez. On en convenait tout à fait.
On
peut donner son nom, c'est Didier Malka.
Nous avons fait une brève sur cette acquisition.
Et bon, évidemment, il nous manque un Ribera, il nous manque peut-être aussi le budget pour l'acquérir. Et très généreusement, il nous a proposé de donner son Ribera. Donc aujourd'hui, son Ribera, qui est un très très beau Ribera, est venu rejoindre toute la collection napolitaine très importante du musée d'Orléans et confronté au tableau de Saint-Thomas de Velázquez. Donc voilà, ce sont une fois de plus, quand des œuvres en lien avec Richelieu sortent, évidemment, nous sommes mobilisés. C'est rare, mais c'est arrivé en effet en 2015. Le XVIIIe siècle, autour de Bardin, des friches aussi très importants. Perronneau pour le pastel, mais le pastel en général.
Pastel en général,
le
oui.
pastel en général, même pour le XIXe siècle. C'est vrai qu'on a, on a une collection parmi les plus importantes de France de pastels. Donc l'idée n'est pas d'acheter tous les Perronneaux qui passent, bien évidemment. Mais dès, là, par exemple, on en a préempté un il y a un an et demi, un an, qui représentait une des grandes mécènes de Perronneau à
Est-ce qu'on
Orléans.
a parlé de celui-ci? Je ne me sais plus même pas.
Il me semble que oui. C'était une
Donc on en parle
préemption
quand même d'acquisition d'Orléans.
lorsqu'il s'agit de préemption. Mais c'est vrai qu'à chaque commission, nous passons énormément d'acquisitions. Et quand on dit acquisition, ce n'est pas forcément des prix très élevés. Parce que quand on suit le marché, on peut acheter une fois de plus à des prix assez bas. Et puis bon, parfois, il faut savoir payer le prix. Et parfois même payer un peu trop cher une œuvre essentielle. Mais nous passons également beaucoup de dons. Le musée d'Orléans est né d'un appel aux dons. En 1823, le comte de Bismont a appelé les Orléanais à donner leur collection pour fonder un musée.
Est-ce qu'il ne faisait pas partie du musée de la liste Chaptal?
Non, pas du tout.
D'accord. C'est le premier musée créé en France.
Et en revanche, le premier musée à être créé par une campagne de mécénat participatif, puisque en 6 ans, 700 œuvres vont entrer en don. Et puis parmi ces œuvres, il y a déjà les Pigalle, il y a les premiers Perronneaux, le Velasquez entre durant cette période. Cette générosité, cette philanthropie, cette envie de construire un musée, a continué jusqu'à aujourd'hui. Alors, pendant tout le 19e siècle, Eudox Marcy a su faire vivre vraiment pendant 20 ans cette philanthropie. Au 20e siècle, un tout petit peu moins, quoique. Et aujourd'hui, plus vif que jamais, et pas nécessairement des Orléanais, vraiment des amateurs de la France entière, parfois des amateurs étrangers, qui, en visitant le musée, se reconnaissent, ressentent cette générosité. Pour nous, c'est vraiment un élément essentiel. Le musée doit être généreux, doit pouvoir donner. C'est une maman qui tend les bras. Il faut ce côté très accueillant, très enveloppant, qui apporte de la réflexion, du bonheur. Et il arrive que des amateurs, en visitant le musée, se disent qu'ils aimeraient que certaines de leurs œuvres, peut-être trop importantes pour rester simplement sur leur mur, puissent être partagées dans ce musée.
Et donc, vous avez dit le 18e, l'art ancien, et le 19e, évidemment, le romantisme.
Naturellement. Alors, les collections sont naturellement très importantes et ont vocation à être développées. Alors, le musée d'Orléans, c'est le fonds Léon Cognier. Tout le fonds d'atelier de ce grand peintre romantique se trouve au musée. Hélas, lorsque le fonds entre en 1892, Marcy est mort 2 ans plus tôt et personne n'est là pour se réjouir de l'entrée du fonds Cognier. Tout est resté en réserve pendant un siècle et a entraîné en grande partie l'oubli de Léon Cognier. Mais les collections autour de toute cette histoire du début du romantisme sont très importantes. Marcy, il faut revenir à sa vie, la manière dont il a construit son goût. Et le fils d'un grand collectionneur du 18e, lui-même grenetier de la Beauce, donc vraiment orléano-orléanais, et qui va acheter dans les années 1820 toutes les œuvres de Boucher, Chardin, enfin tout ce que personne ne veut, Fragonard. Il partage cette passion, autre passion, Prudhon, avec les frères de Veria. Et ils vont d'ailleurs se vendre, s'acheter beaucoup d'œuvres. Et Marcille va confier à Eugène de Veria l'éducation artistique de son fils Eudox. Et donc Eudox a été biberonné au romantisme dès 1829-1830, au moment où Eugène de Veria est vraiment la figure prépondérante du romantisme. Il va découvrir dans son atelier bien toutes ces grandes figures du romantisme. Il va connaître un certain romantisme, les élèves d'Ingres. Et il va garder ce goût. Et c'est exactement ce romantisme-là qu'il va vouloir porter lorsqu'il sera au musée d'Orléans. Et il va faire du porte-à-porte auprès des veuves, des collectionneurs, des artistes, pour réunir des fonds entiers. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on retrouve Tricoty massivement représenté, qu'on retrouve Cognier massivement représenté, mais aussi Lehmann, enfin, énormément d'artistes. Alors, son grand raté, c'est de ne pas avoir eu le fonds d'atelier d'Eugène de Veria, qui est mort 5 ans avant son arrivée à Orléans, mais il a réussi à récupérer des œuvres. Et donc, c'est comme ça que ce fonds absolument extraordinaire a pu être réuni. Et puis, on sent son goût, hein. Il a un goût très marqué qui ne va pas du tout vers le paysage, pas du tout vers l'impressionnisme naissant. Et il va au contraire soutenir de jeunes artistes qui continuent d'œuvrer dans la peinture d'histoire. Et les quelques acquisitions qu'il réussit à mener, ce sont pour de jeunes artistes, Richemont, des artistes comme ceux-là, qui au salon dans les années 1880 jusqu'en 90 vont continuer de représenter ce grand genre. Et donc c'est tout ce qu'on a déroulé pour pouvoir présenter dans la salle 19e.
Et on arrive au 20e, où il y a aussi un fonds important, par exemple de Boutet de Montvel.
Exactement. Alors Louis-Maurice Boutet-Nonvel, le père, est originaire d'Orléans. Et nous avions quelques œuvres, mais pas totalement représentatives. Et là aussi, c'est la chance hein, qui fait qu'à un moment donné, des opportunités se présentent. L'atelier des Boutet... Alors, chance ou malchance.
Chance ou malchance, parce que cet atelier a quand même été dispersé dans la plus grande indifférence de la plupart des musées français, en tout cas du ministère de la Culture, hélas. Et ça aurait pu faire un musée formidable dans l'ancienne maison de Boutet-Nonvel. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Alors, heureusement, et moi, ce que je regrette toujours, hein, c'est le départ de ce chef-d'œuvre absolu, l'autoportrait de Place Vendôme, qui, pour moi, était un trésor national, qui n'a pas été considéré comme tel, parce que l'art déco, l'art des années 30, tout le monde s'en fiche, sauf vous et sauf quelques musées. Il y a d'autres musées, évidemment, hein, qui ne s'en fichent pas. Le musée de Boulogne-Billancourt, il y a des musées, la piscine dont on parlait, qui est le musée peut-être le plus actif sur ce plan-là. Mais c'est un chef-d'œuvre qui est parti.
Le musée de Poitiers, bien sûr, le musée de
Mont-de-Marsan, qui s'occupe aussi de l'art déco. Mais malheureusement, je dois le dire, ça n'a jamais été. Il n'y a pas de musée national. Beaubourg, malheureusement, est toujours tourné vers la modernité, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas de solution de continuité. C'est un peu comme. Je trouve que pour l'art déco, on est un peu dans la même position qu'on était pour l'art académique, entre guillemets, du 19e siècle, avant la création de l'Orsay. Et la révolution d'Orsay n'a pas encore touché Beaubourg, ça je le regrette.
Oui, on peut le regretter en tout cas.
J'inviterai certainement Laurent Lebon à en parler, parce que c'est quelque chose, je pense qu'il ne serait pas contre ça, mais je ne sais pas pourquoi ça ne se passe pas.
En tout cas, nous avons tous assisté un peu avec désespoir au démantèlement de l'atelier des Boutet-Nonvel, père et fils. Maurice et son fils Bernard, la grande figure de l'art déco. Et lors de cette vente, nous avons pu acquérir plusieurs œuvres, pas suffisamment, on aurait voulu en acheter plus encore, mais nous avons eu la main heureuse puisqu'on a pu acheter une œuvre qui aujourd'hui qui accueille le visiteur qui est dans l'entrée du musée, qui est la Jeanne d'Arc entendant les voix, qui avait été peinte pour la basilique de Don Rémy, cycle qui n'a pas été achevé. Et puis plusieurs autres œuvres, et puis nous avons notamment les Toits de New York de Bernard Boutet-Nonvel, qui est une œuvre qui avait été achetée dans les années 80, et qui aujourd'hui serait absolument inaccessible. Hein, nous l'avons vu à la TFAF. Et puis le XXe siècle est bien représenté par des ateliers, des ensembles d'artistes qui ont eu un lien avec Orléans. Ça, c'est vraiment toute la politique des années 50, notamment Henri Gaudier-Breschka, grand sculpteur orléanais, plus rattaché à l'école anglaise, hélas trop peu connu en France, en dépit de plusieurs expositions qui lui ont été consacrées, qui est une des grandes figures du vorticisme, qui est mort en 15 à Arras, sur le front. Et nous avons donc tout un ensemble qui va être mieux déployé d'ici quelques semaines. Le public pourra... En fait, on avance salle par salle actuellement et le public peut découvrir un peu par hasard ces collections redéployées. Donc Gaudier-Breschka, évidemment Mac Jacob, grande figure des collections d'Orléans. D'ailleurs, nous lui consacrons une exposition au mois d'octobre, à partir du mois d'octobre. Et puis après tout un ensemble pour la deuxième moitié du XXe siècle, plus tourné vers la figuration narrative, dont nous avons un des fonds un peu structurant pour les collections françaises. Mais nous allons jusqu'à aujourd'hui, puisque Anne et Patrick Poirier nous ont offert il y a peu de temps une grande maquette, Amnesia, qui va rejoindre les salles du musée.
Alors j'ai une question aussi, peut-être pour sortir du musée Beaux-Arts, vous n'êtes pas que directrice du musée Beaux-Arts, vous êtes directrice des musées d'Orléans, il y a le musée, l'hôtel Cabu et... tout ce qui a trait autour de Jeanne d'Arc, alors on en trouve au musée des Beaux-Arts, mais comment se répartissent les collections avec l'hôtel Cabu ?
Alors en effet, les musées d'Orléans vont au-delà du musée des Beaux-Arts, même si je suis directrice scientifique pour le coup du musée des Beaux-Arts. Il y a également tout un pôle histoire avec la maison de Jeanne d'Arc, qui est un centre de référence, c'est un centre de recherche, pas un musée, mais avec malgré tout des collections plutôt ethno liées à Jeanne d'Arc. C'est un centre d'ailleurs qui accueille un public international et qui anime une recherche internationale liée à Jeanne d'Arc. Et puis il y a l'hôtel Cabu. L'hôtel Cabu, musée d'histoire et d'archéologie, qui a été à peu près sauvé des flammes pendant la guerre. Il faut rappeler que les musées d'Orléans ont beaucoup souffert pendant la guerre. Le musée Paul Fourchet a été pillé avant d'être incendié. Il conservait toute la collection de Paul Fourchet, qui avait été un des grands donateurs en 1907, jusqu'à susciter l'ouverture d'un musée. Et puis une deuxième partie du don est arrivée avec le legs de 1922, qui lui a était essentiellement constitué de dessins, 4000 dessins qui étaient conservés au musée des Beaux-Arts ont été mis à l'abri. En revanche, les œuvres qui étaient conservées dans le musée Paul Fourchet, 350 tableaux et à peu près autant de dessins, ont été pillées et manquent toujours à l'appel.
Elles n'ont pas été détruites, donc.
Elles n'ont pas été détruites. Alors, nous en connaissons certaines par photo. D'ailleurs, nous venons de consacrer une exposition à ce musée Paul Fourchet, à Paul Fourchet d'abord, grand collectionneur, hein, l'amasseur d'art, comme nous avions appelé l'exposition, et à ce musée que nous avions reconstitué grâce à des photos que Zéry, Longhi, Lurt ont sollicité ou pris eux-mêmes lors de leur passage à Orléans. C'était une collection très très célèbre, avec notamment un tableau de l'atelier de Raphaël, qui était un des hits de la collection. Ces tableaux manquent encore à l'appel.
Et donc on devrait pouvoir le retrouver un jour, parce que c'est quand même
nous espérons.
Une chose importante. En tout cas, inaliénable, bien sûr.
Inaliénable, imprescriptible.
S'il passe en vente, il doit être récupéré par Orléans.
Exactement. Ensuite, le musée Jeanne d'Arc a brûlé intégralement, donc avec des pertes très importantes, notamment un portrait de Jeanne d'Arc par Champagne, des tableaux d'Alexandra Évariste Fragonard, enfin une collection vraiment très très importante de références, Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, par chance, Jeanne d'Arc a suscité une très riche iconographie tout au long du XIXe siècle. Autour de Marie d'Orléans, nous avons aussi tout ce début de cette émulation autour de Jeanne d'Arc. N'oublions pas que Marie d'Orléans a fait partie des premières influenceuses qui ont mis Jeanne d'Arc à l'honneur et motivé père, frère et elle-même à faire connaître Jeanne d'Arc par les œuvres d'art. Donc tout cela a pu susciter la constitution d'une collection qui est visible aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts. Mais Jeanne d'Arc n'est plus dans ses murs au Musée Jeanne d'Arc. Et puis il y a donc à l'hôtel Cabu eu de très très importantes pertes puisque le musée a été incendié. Il a pu être reconstruit, donc une partie moderne, ce que le public ne voit pas, et les murs du bâtiment Renaissance ont été restaurés. Les collections ont été reconstituées. Par chance, le trésor de Neuvy-en-Sulias, qui est vraiment un trésor gaulois de première importance, avait été mis à l'abri. Les chapiteaux de Saint-Benoît-sur-Loire également, mais une grande partie a péri. Et aujourd'hui, ce pôle histoire est en train de se restructurer. Le maire d'Orléans, qui est vraiment un très grand soutien, hein, qui...
Je dois dire que, encore une fois, je le répète parce que j'avais été assez sévère pour Serge Gouard à un moment où c'était une affaire qui finalement s'est bien terminée. Et en tout cas, Serge Gouard, il faut lui rendre hommage parce qu'il soutient le musée, et il soutient les musées d'Orléans qui deviennent parmi les plus importants musées de France. Donc je tiens d'autant plus à le dire que j'étais, qu'à un moment donné, on n'était pas forcément en phase, mais là vraiment, merci Serge Gouard.
Oui, Serge Gouard est quelqu'un qui soutient les musées, qui soutient l'exigence... intellectuels aussi, qui souhaitent que les musées d'Orléans touchent à une forme d'excellence et soient au service du public. Donc c'est évidemment dans ce sens que nous avançons et il vient de valider l'avancée vers un pôle histoire, notamment la rénovation de l'hôtel Cabu, qui va pouvoir être mis aux normes PMR, donc avec une accessibilité qui aujourd'hui manque pour les touristes notamment. Et puis le redéploiement d'un parcours avec une mise en valeur des collections qui sont en grande partie en réserve. Et puis avec aussi une réflexion sur un nouveau musée d'histoire, un musée d'histoire de France qui serait corrélé à ce centre Jeanne d'Arc qui ne monte pas ses collections et à l'hôtel Cabu. Et d'ailleurs, je me permets de lancer un appel. Allez-y. Puisque nous allons d'ici quelques semaines, lancer le recrutement d'un conservateur, plutôt profil histoire, mais qui évidemment aime les objets, hein, puisque n'oublions pas, un musée, ce sont des objets, et qui sera donc à mes côtés pour piloter ce beau projet, ce double projet de déploiement des collections historiques.
Une petite parenthèse sur Marie d'Orléans.
Oui.
Vous êtes donc un musée en pointe pour Marie d'Orléans, mais par exemple, le château de Chantilly également. Alors comment ça se passe avec quand il y a une œuvre en relative à Marie d'Orléans? Parce que le musée Condé, avec Mathieu Daldic, est de plus en plus actif lui aussi sur les acquisitions, ce qui n'était pas le cas avant. Donc comment faites-vous? Vous parlez?
Bien sûr qu'on se parle, d'autant plus que nous sommes amis. Nous ne cherchons pas nécessairement les mêmes objets. Alors nous avons tout un fonds Marie d'Orléans, mais le musée Condé aussi. Nous avons des œuvres d'ailleurs en double, par exemple Jeanne d'Arc pleurant à la vue d'un Anglais blessé, dont la version de Marie se trouve à Chantilly, et une version offerte par Marie-Amélie à la ville d'Orléans se trouve à Orléans. Récemment, le musée de Chantilly a acheté deux aquarelles de Marie d'Orléans.
C'est là que je me suis trompé. À la TFAF, ces deux aquarelles ont été achetées par le musée de Chantilly, par le musée Condé. Nous n'en avons pas encore parlé, en tout cas, ce n'était pas par Orléans. Voilà.
Non, ce n'était pas par
Orléans. La confusion était bien Marie d'Orléans.
Et je crois qu'il est important de ne pas mettre, tout l'œuvre d'un artiste au même endroit. La crue du Loing en 2016 et le grand drame qu'a connu le musée Girodet nous l'a rappelé. Si tout le fonds Tricti avait été mis à Montargis, aujourd'hui, il resterait bien peu à voir.
Bah, y a quand même, Montargis a quand même été en grande partie sauvé des eaux, malgré tout, restauré.
Oui. Malgré tout, on peut penser que tout n'aurait. Les plâtres, évidemment, ont subi des aléas.
Ils ont souffert. Non, ils ont souffert, mais ils existent encore, heureusement. Ils ont souffert, c'est sûr.
Mais il est toujours intéressant d'imaginer un fonds réparti entre plusieurs lieux. Et d'ailleurs, une grande partie de l'atelier de Marie d'Orléans, l'atelier de Marie d'Orléans a brûlé dans l'incendie du château de Gotha. Donc aujourd'hui, on voit que tout mettre au même endroit n'est pas une bonne idée. Donc pouvoir représenter Marie d'Orléans à la fois à Chantilly et à Orléans, deux lieux qui sont complètement attachés à sa mémoire, eh bien, n'a rien, est vraiment totalement légitime et en plus permet de mieux faire rayonner cet artiste, mieux la faire connaître.
C'est vrai. Vous parliez donc, nous avons parlé de la restauration tout à l'heure, enfin des grands tableaux. Il y a encore peut-être moins de grands tableaux 19e qui sont dans les réserves, puisque vous en avez sorti beaucoup, vous en avez restauré beaucoup, mais c'est aussi une des caractéristiques du musée où vous étiez à Amiens et d'Orléans, c'est de posséder ces grands tableaux. Ceux qui ne les aiment pas les appellent des tartines, moi je les appelle des chefs-d'œuvre, des grands tableaux romantiques souvent, mais pas seulement. Tout au long du 19e siècle, on a fait de grands tableaux d'histoire, des tableaux religieux. Vous en avez restauré beaucoup, vous en présentez beaucoup, vous en avez même acheté, comme par exemple le tableau de Léon Cogniet représentant la Duchesse de Luynes. Parlez-nous de cette politique-là, et plus largement, comment est-ce qu'on pourrait, c'est peut-être ça va au-delà du musée d'Orléans, comment est-ce qu'on pourrait sauver tous ces tableaux qui sont roulés un peu partout dans les réserves des musées et qui sont très difficiles à montrer parce qu'ils sont très grands?
Alors, la politique de restauration a accompagné le redéploiement des collections avec un budget de 80 000 euros par an qui est assez stable depuis 2016-2017 et qui permet à la fois de traiter des œuvres qui se trouvent dans le parcours, puisqu'on a tout de suite redéployé, 6 mois après mon arrivée, on ouvrait le deuxième étage. Donc le 17e n'avait pas pu être encore restauré. Donc par rotation, nous avons restauré tous les tableaux napolitains, les tableaux français, le Laïr qui est un chef-d'œuvre absolu qui aujourd'hui resplendit, mais également tous les autres, le Velázquez évidemment. Une exposition lui a été consacrée. Et l'autre moitié du budget était réservée à restaurer les œuvres qui allaient être redéployées pour le 18e siècle, où de grands chantiers ont été menés, et surtout pour le 19e, qui était un siècle où les grands formats nécessitaient d'être déroulés. Alors les collections étaient en bon état, il faut quand même le préciser. Celles qui ne se trouvaient pas en réserve, qui à un moment donné avaient été montrées, notamment sous Éric Moinet, rappelons que dans les années 90...
Il y a eu Éric Moinet qui était un très beau conservateur.
Le musée d'Orléans était un des plus... tenait sa place de grand musée français.
Je me rappelle, je m'intéressais déjà à l'histoire 90. De l'art, j'ai visité... Et Éric Moinet, il faut lui rendre hommage parce que c'est un grand conservateur du musée
d'Orléans. Tout à fait. Augelveau puis Moinet ont été vraiment deux grandes figures du musée d'Orléans. Elles, dans les années 80 et 90, l'ont fait vivre. L'ont fait vivre et ont restauré les œuvres. Elles ont bien conservé. Donc les restaurations pour le 19e siècle portaient essentiellement sur les grands formats qui étaient roulés. Qui avait été roulé dès la guerre. On savait toujours la même histoire. Bon, évidemment, Orléans est une petite joueuse à côté d'Amiens qui a été conçue pour être un musée de grand format. Donc il y en avait de mon temps 90, je crois qu'il en restait une soixantaine quand j'ai quitté Amiens. Au moment où nous parlons, Pierre Stepanov est en train de lancer la restauration d'un grand format, donc tout cela continue. À Orléans, nous avons choisi aussi en fonction de l'importance des œuvres, hein, c'est ce qui guide et de la place. La place doit néanmoins être un problème très secondaire, puisqu'on trouve toujours des solutions. J'ai la conviction qu'on peut toujours trouver des solutions, des bouts de mur, tout est question de Tetris dans un accrochage, et on arrive toujours à trouver de la place pour les œuvres. Alors, il arrive un moment où, malgré tout, la saturation est atteinte, et c'est là que les travaux d'agrandissement arrivent.
Parlons-en, on parlera d'exposition plus tard. Parlons-en de ces travaux d'agrandissement. En quoi consiste-t-il? Combien de temps le musée va fermer? Malheureusement, est-ce qu'il va fermer?
Il doit fermer.
Comment cela va-t-il se passer? Qui finance, etc.
Alors, tout le parcours a été redéployé, je vous l'ai dit, depuis 2016. Donc aujourd'hui, le visiteur peut venir. Il a un musée rénové. Néanmoins, l'enveloppe, elle, date de 84, avec des mises aux normes nécessaires, notamment les enfumages, les gaines, le traitement de l'air, l'inertie du bâtiment, enfin des choses que le public ne voit pas nécessairement. Et qui nécessite que toutes les œuvres soient décrochées, évidemment, puisqu'il va y avoir des tremblements dans les murs, on va devoir cesser la clim, donc pendant 2 ans et demi, le musée sera fermé. Et quitte à faire ces travaux, évidemment, on augmente un petit peu la surface, puisqu'on va récupérer le bâtiment d'à côté, qui était l'ancien office de tourisme, pour y installer l'accueil. Ce qui fait que l'accueil que le public connaît aujourd'hui, qui est vraiment la verrue du musée, hein, qui est un espace disproportionné, pas très accueillant, eh bien, va devenir une galerie de grand format, de sculptures de grand format. Et on va également y installer un café sous les arcades du musée, ce qui va donner un bâtiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accueillant aussi, hein, puisque, c'est, rappelons-le, 1300 œuvres à voir ne se fait pas en une heure. Et il y a un moment où on a envie de pouvoir aussi se poser, de respirer. Et donc, c'est à la faveur de ce café, ce lieu de détente, qu'on va pouvoir le faire. Et puis, nous sommes en train de réfléchir à peut-être réussir à récupérer d'autres espaces pour augmenter l'espace consacré au XXe siècle, qui est en train de le montrer est trop petit. Et si nous continuons d'enrichir les collections dans ce domaine, nous allons vraiment manquer de place.
Et ça sera où? Ça serait où?
En dessous.
Ah bon, en dessous de l'étage inférieur.
En dessous de l'étage inférieur, puisqu'il y a encore un niveau de réserve qui pourrait être amené à déménager pour qu'on puisse récupérer partiellement, en tout cas, le plateau, qui est un très très grand plateau.
D'accord. Donc, alors ça, ce sont les travaux à venir. Ils se commencent quand? Ils se terminent quand?
Alors, vraisemblablement, de début 27 jusqu'à mi-29. L'objectif étant de réouvrir en 2029. Et nous allons continuer la programmation jusqu'à la fin de l'année 26, début 27. Donc, le public pourra continuer de venir sans aucun problème au musée d'Orléans. Et puis, pendant la fermeture, l'objectif n'est pas de tout stocker et de laisser les œuvres loin des yeux. D'une part, nous allons procéder à plusieurs itinérances, notamment aux États-Unis et en Asie, qui sont deux pays qui n'ont jamais vraiment vu les collections tout ensemble. On prête énormément à tous les pays du monde, mais il n'y a jamais eu ces grands voyages de collections, notamment parce que le musée d'Orléans a été rénové en 84, a ouvert plutôt le bâtiment actuel en 84. Il y a une période durant laquelle on ne faisait pas ces itinérances, notamment avec le réseau Frame. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir le faire et mieux faire connaître la collection et avoir en même temps Velázquez, Lahir, Guidorini et Tamara Dempica. Donc, tous les chefs-d'œuvre partiraient ensemble.
Ils peuvent voyager, rassurez-moi.
Ils peuvent voyager, bien sûr. On ne fera pas voyager les pastels, en revanche. Et puis, parallèlement, on sera ravis de pouvoir prêter également à nos collègues en région. À Paris également, hein, le musée d'Orsay, le musée du Louvre ont déjà exprimé le souhait d'avoir plusieurs œuvres dans leur parcours pour compléter leur collection. Mais on espère que d'autres musées de région pourront bénéficier des collections d'Orléans. On a déjà quelques demandes, et c'est soit sous forme d'exposition, soit de dépôt d'une œuvre ou deux qui vient compléter justement une collection.
Vous-même, vous avez des dépôts temporaires d'œuvres de musées de province. Je pense à Chartres, peut-être à Dunkerque aussi, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Mais Dunkerque, alors je ne sais pas s'il y a des projets pour réouverture du musée, parce que c'est un musée qui me préoccupe. Chartres, j'ai l'impression que ça bouge un petit peu. Donc vous avez aussi des œuvres. Mais alors, dans ce cas-là, je me pose toujours la question, parce que vous exposez des œuvres d'autres musées, mais finalement, même si les murs sont extensibles, il y a quand même des œuvres de votre propre musée que vous êtes obligé de mettre en réserve. Est-ce que vous avez encore beaucoup d'œuvres en réserve? Est-ce que vous faites tourner les collections? Comment ça se passe pour les œuvres que vous ne pouvez pas malgré tout montrer?
Alors, on a évidemment des œuvres en réserve, des œuvres un peu secondaires. Et il faut aussi penser que toutes les collections ne doivent pas être montrées en permanence. On a beaucoup de collections qui sont plus de l'ordre de l'étude, et qu'il faut conserver comme objet d'étude. Dans le cas de Chartres, le musée, à un moment donné, a fait un choix d'arrêter le XXe siècle, de ne plus montrer le XXe siècle, sauf Soutine et Vlaminck. Donc, on a procédé à des formes d'échange, et le musée souhaitait bénéficier de nos réserves pour stocker des œuvres. Donc j'avais proposé à la place qu'on montre les œuvres dans le parcours. On n'est pas très réserve, nous. Et en même temps, c'était des grands formats. Ils venaient tout à fait compléter nos collections. Donc il y avait une logique à pouvoir présenter toutes ces œuvres ensemble. Et nous avons déposé inversement un Soutine et un Vlaminck qui trouvent peut-être mieux encore leur place à Chartres. Dans le cas de Dunkerque, non, a priori, il n'y a pas de projet pour assez longtemps. Et donc le conservateur qui vient de quitter le musée, avant de partir, a souhaité pouvoir trouver des lieux d'exposition pour des chefs-d'œuvre. Donc deux tableaux, un de Jean de Rennes et un de Magnasco sont déposés, deux grands formats. Alors là aussi, nous aimons beaucoup les grands formats et nous avons des volumes qui le permettent. Le Jean de Rennes fait quasiment 4 mètres et c'était le critère, il venait d'être restauré en mécénat de compétences par Arcane et c'était tout à fait dommage de ne pas le montrer. Donc il accueille aujourd'hui le visiteur sur le palier du premier étage.
Et est-ce que vous recherchez aussi, moi c'est aussi une chose qui me préoccupe, donc il y a beaucoup d'œuvres, il y a des œuvres qui dans certains musées ne sont jamais montrées et ne le seront probablement jamais parce qu'elles ne correspondent pas aux collections globales, elles sont un petit peu hors collection. Et est-ce que vous essayez de trouver, je sais que quelqu'un fait ça très bien, c'est par exemple Guillaume Caseroni qui arrive à trouver beaucoup d'œuvres en dépôt de diverses institutions. Est-ce que vous essayez de faire ça aussi à Orléans, de trouver des œuvres qui peuvent vous être déposées pour des périodes finalement presque indéterminées puisque, ou indéfinies, puisque ça ne sera jamais montré dans les musées d'origine?
Oui, tout à fait, et dans les deux sens d'ailleurs. Nous avons aussi des œuvres que nous ne montrons pas, qui sont difficiles à sortir aux collections et que nous proposons. Je crois que l'avenir des musées réside dans ce réseau. Ce sont des collections publiques, alors qui évidemment sont gérées par chaque ville, sont la propriété de chaque ville, mais qui en même temps appartiennent à un même public. Hein, et l'important est que le public puisse y avoir accès. Alors après, il y a plein d'autres moyens, hein, les publications, moi je crois beaucoup dans les catalogues raisonnés. Il n'y a rien de plus durable qu'un catalogue raisonné. Et parallèlement les mises en ligne qui permettent aussi d'avoir accès à un moment donné. Les expositions servent à ça aussi, à pouvoir valoriser des tableaux. Récemment, nous avons consacré une exposition.
Parlons des expositions, c'était le prochain sujet.
Nous avons consacré une exposition à Jean Bardin. Je vais revenir sur la politique d'exposition. C'était l'occasion, à la fin, de montrer plusieurs œuvres de Rabigaud, qui est le peintre qui a succédé à Jean Bardin à la direction de l'école de dessin d'Orléans. Des œuvres qui sont très secondaires et ne trouvent pas du tout leur place dans le parcours parce que vraiment d'une importance.
Je veux dire, je ne me rappelle même plus de ces œuvres.
Alors, elles sont.
C'était des dessins
Et des tableaux. Un autoportrait de Rabigaud qui était
j'ai
à la fin.
Sur Bardin, j'en ai parlé. Et je veux dire que le nom Rabigaud ne me,
il y avait
me rappelle rien.
Il y avait parallèlement une exposition à l'hôtel Cabus sur Rabigaud qui était
que je
paysagiste.
N'ai pas vu celle-ci alors que je suis allé à Orléans voir l'exposition Bardin.
Quel
honte
dommage.
Sur moi.
Honte. Et donc c'était l'occasion de les montrer, de les reproduire aussi au catalogue, même si. Au quotidien, on ne peut pas les montrer dans le parcours. Alors, la politique d'acquisition, d'exposition, pardon, elle suit un peu cette grande renaissance du musée d'Orléans. Le musée d'Orléans était, en 2015, totalement oublié. D'abord, c'est un musée, il faut le rappeler, qui a une lacune, c'est sa façade. Il est absolument invisible dans l'espace public, façade ni laide ni belle, mais qui fait qu'on ne le voit pas. Et on n'imagine pas, quand on est face au musée, qu'il y a derrière un des plus grands musées français. Donc pour tous ceux qui vont à Orléans, ne vous fiez pas à la façade, qui va être repensée à la marge pendant les travaux d'agrandissement. Mais derrière cette façade, il y a en réalité une très très grande collection. Et tout cela allait de pair avec la manière dont l'histoire était perçue. Les Orléanais eux-mêmes ne connaissaient plus leur histoire. Et le musée d'Orléans, n'a pas fait, dans les années 70, il y avait très peu d'espace pour faire des expositions, n'a pas fait ces grandes expositions sur des figures du territoire ou de la collection. Alors, une fois que j'ai dit ça, je mens, puisqu'il y a eu une exposition Cogné, une exposition Gaudi-Breschka qui avait été menée par David Ogelvaux.
Une exposition Antigna aussi.
Une exposition Antigna également. David Ogelvaux s'est vraiment employé à faire ces expositions, mais dans des espaces très réduits. Et puis à une époque où on ne faisait pas de gros catalogues, ce qui fait qu'on a une mauvaise connaissance de ces grandes figures structurantes du musée. Donc il me semblait important de pouvoir revenir sur ces collections et de mieux les faire connaître donc par des expositions. Et la première grande exposition que nous avions faite, alors une première ici qui avait été sur, qui était une exposition de transition entre Amiens et Orléans, puisque un des grands artistes d'Amiens est Albert Maignan. Et il se trouve qu'il avait candidaté pour les vitraux de la cathédrale d'Amiens. Alors, tout le monde pensait qu'il aurait le...
Albert Maignan qui aurait une exposition à Amiens bientôt.
Exactement.
Il y a une cohérence finalement dans tout votre parcours entre
tout à fait.
Amiens et Orléans.
Tout à fait. Et j'avais fait une exposition avec la spécialiste de l'artiste à la Fondation Taylor pendant la fermeture du musée d'Amiens. Et donc j'étais arrivée à Orléans avec ce projet d'exposition sur le grand concours des vitraux de la cathédrale qui avait eu lieu à la fin du 19e siècle. Maignan était porté gagnant et puis au dernier moment, des appuis politiques politiques ont permis à un autre artiste d'être retenu. Et donc ça avait été la première, montée assez rapidement, mais qui avait redynamisé et relancé en fait ces expositions. Il y en a deux par an, une grande et une petite, d'un point de vue budgétaire, pas forcément du format. De façon à ce qu'il y ait une vie permanente, plus des expositions dans les cabinets d'art graphique, puisque je ne l'ai pas mentionné, mais dans le musée, nous avons aménagé 4 cabinets d'art graphique qui permettent de montrer en permanence.
Ça, c'est très rare dans les musées.
Puisque nous avons 13 000 dessins à 50 000 estampes, et donc par thème, nous faisons
et
des rotations.
Et un restaurateur de dessins.
Et un restaurateur art graphique qui nous permet ces expositions. Par exemple.
Ce qui est rare hein, dans les musées, c'est presque unique. En France, peut-être au Louvre, il y a peut-être.
Alors, au Louvre, aux arts décoratifs, au musée Benat, voilà. et depuis peu au musée de Montargis.
Voilà, donc très peu de restaurateurs. Affectés à des musées, en général, ce sont des personnes extérieures qui viennent. Et, voilà.
et c'est essentiel, je crois, pour faire vivre un cabinet d'art graphique, parce que le volume, en fait, à traiter est tellement grand que si on devait faire feuille à feuille, on n'arriverait jamais au bout de cette collection, on ne la ferait jamais connaître. Et donc, cela nous permet de faire beaucoup d'expositions où les arts graphiques tiennent une vraie place. D'ailleurs, dès qu'on invite des artistes d'art contemporain, tel le cas actuellement avec Johan Cretten ou avant avec Marcus Lupers, ils sont frappés par la place du dessin. Et veulent montrer leur propre dessin, parfois pour la première fois. Donc, ça nous fait un panel de 3 à 4 expositions par an. Et donc, les grandes expositions tournent sur deux axes. Le premier, ce sont des artistes ayant un lien avec le territoire. Et il y a eu notamment la grande exposition Perronneau, qui n'aurait jamais pu être faite sans restaurateur art graphique.
De la Perche. Qui est le père avec une grosse acquisition.
Grosse acquisition de 93 dessins qui étaient les premiers à être découverts de cet artiste qui en réalité avait une carrière importante en Russie. Malheureusement, le contexte fait qu'on ne trouvera, je crois, plus jamais la suite. On commençait à avoir des pistes pour retrouver des œuvres. Il a vécu plus de 20 ans en Russie. Jean Bardin, qui était peintre du roi, qui a été amené par Cochin et Jean-Baptiste Marie-Pierre à Orléans pour fonder l'école gratuite de dessin. Donc nous avons réuni pour la première fois son œuvre. C'est un artiste qui fait partie de ces grands noms du 18e que nous connaissons mal. Donc c'était formidable de pouvoir réunir les œuvres. C'est à chaque fois aussi un moment de bravoure pour les équipes techniques parce qu'il faut déplacer des grandes machines qui se trouvent dans d'autres pays. Il faut chercher aussi pour les équipes scientifiques des œuvres qui doivent être réattribuées. C'est l'occasion aussi de travailler avec des spécialistes de la question et c'est notamment le cas pour la prochaine exposition qui ouvrira le 8 juin, Étoile du Nord, où nous avons travaillé pendant 3 ans avec David Mandrella, qui a établi le catalogue raisonné des dessins nordiques du musée d'Orléans. Il arrivait à 856 feuilles et une exposition va accompagner la sortie du catalogue avec les 160-170 plus belles feuilles de la collection qui vont montrer cette histoire. En fait, ce qui est fascinant à Orléans, c'est l'histoire du lieu. C'est pas un musée souhaité par l'État, c'est un musée souhaité par des collectionneurs qui ont voulu transmettre, partager et l'ADN du musée est resté le même à travers le temps. Et aujourd'hui, il est important de pouvoir partager ces collections. Notre devoir, c'est de faire connaître au maximum. Et il y a une grande partie encore tout à fait méconnue. Et je crois que pour les écoles du Nord, il y aura encore de très grandes surprises pour les amateurs.
Alors vous parlez des catalogues, dans les expositions, il y a des catalogues également des collections. Alors, peut-être terminons là-dessus. Est-ce que vous avez en projet un catalogue des peintures 19e, et des sculptures 19e d'ailleurs, qui sont une des grosses forces, on l'a dit, du musée?
Alors, il y a déjà eu un catalogue du 19e incomplet, qui s'appelait Le Temps des Passions.
Le Temps des Passions, oui, tout à fait. Je l'ai dans ma bibliothèque, effectivement, mais il n'est pas du tout complet.
Il n'est pas du tout complet, notamment parce que nous avons bien complété la collection.
Et c'était pas, à l'époque, il ne se voulait pas complet, si. Il se voulait sur une période très précise, en fait.
Exactement.
Pas du tout sur tout le 19e siècle.
Non, ce n'était pas du tout le 19e siècle. Donc oui, les deux projets à venir, maintenant qu'on a publié les 15, 16, 17 France-Italie... Les écoles du Nord avaient déjà été publiées par Éric Moinet. Maintenant, on va passer au XVIIIe siècle, art graphique et peinture, et sculpture évidemment, et puis le XIXe siècle. Donc là, chacun porte un peu ses projets et avance dans cette direction, mais l'objectif est de pouvoir avoir la totalité des collections publiées.
Et le site internet, ça c'est peut-être une chose qui fait encore un peu défaut.
Tout à fait.
Au musée d'Orléans, les collections ne sont pas vraiment sur internet, c'est compliqué à trouver. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu également?
Oui, c'est tout à fait en cours. Alors, la technologie n'est pas toujours notre amie. Et en l'occurrence, il y a une douzaine, quinzaine d'années, le musée avait pris une base de données qui était incompatible, enfin, qui est utilisée par d'autres musées, mais qui s'est toujours avérée incompatible avec le versement sur Joconde. Donc, il y a maintenant 6 ans, nous avons décidé de quitter cette association pour passer à une autre base de données. Le transfert s'est fait très difficilement, rien n'est arrivé dans la bonne case. Donc quand on parle de collection avec un volume comme Orléans, c'est énormément de travail. On a 5 personnes qui travaillent en permanence sur ces fiches. Et nous sommes en train de travailler depuis octobre dernier sur un site internet qui verra le jour dans le courant de l'été, avec déjà une partie des collections en ligne. Parallèlement, on travaille à un portail qui lui montrera la totalité des collections. Ce sera alimenté au fur et à mesure. Et en effet, vous avez raison de le souligner, la grande lacune du musée d'Orléans, c'est son absence de site internet. Et on a l'impression, peut-être en regardant la page actuelle, qu'il s'agit d'un musée de seconde catégorie, alors qu'en réalité, c'est, vous le savez, une des plus grandes collections françaises.
Eh bien, nous conclurons là-dessus en soulignant toutes les choses à venir, tous les travaux à venir, l'agrandissement, le site internet, les prochaines expositions, les restaurations. Enfin, vraiment, il y a plein de projets.
Plein de projets. On vous attend d'ailleurs régulièrement, Didier, et pour les expositions. Et puis en fin d'année, on va peut-être mentionner ce qui sera la grande exposition de l'année, Guido Reni, l'artiste et l'atelier.
Voilà, avec un tableau qui a été réattribué, que j'ai vu d'ailleurs à Francfort.
À Francfort, à Madrid.
Je ne l'ai pas vu à Madrid, mais je l'ai vu à Francfort, dans l'exposition dont j'avais parlé sur la tribune de l'art. Un tableau qui effectivement est indiscutablement de Guido Reni.
Oui, qui est d'ailleurs le premier David et Goliath de Guido Reni. Et à partir de ce tableau, Corentin Dury a commencé une étude, ça fait maintenant 4 ans qu'il travaille sur la question de l'atelier, qui est très complexe chez Guido Reni. Donc ce sera l'occasion d'ouvrir sur cette question très problématique chez Reni.
Eh bien merci beaucoup et à la semaine prochaine, je pense, pour une prochaine émission de l'invité de la Tribune de l'Art. Merci.